Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent quatre émissions sur la période médiévale à Nîmes, intitulées « Du Duocento au Quattrocento ». Nous y découvrirons les prémices inspirées du modèle italien, de l'émancipation bourgeoise, de la devotia moderna et finalement de l'humanisme qui feront le lit de la réforme nîmoise. Aujourd'hui, le Duocento à Nîmes. Pourquoi ce titre italianisant ? Lors d'un récent séjour en Toscane, nous avons été frappés par des similitudes de situations tant économiques, sociopolitiques que religieuses retrouvées au Moyen-Âge entre les cités toscanes et Nîmes, et d'autres cités languedociennes également. Certes, avec une antériorité italienne, parfois d'un siècle, certes, de façon plus discrète à Nîmes, mais avec cette même volonté d'émancipation d'une bourgeoisie enrichie. Or, cette première émancipation bourgeoise vis-à-vis des pouvoirs centraux religieux comme politiques n'est pas sans rapport avec l'implantation du calvinisme dans notre ville au XVIe siècle et prend donc toute sa place ici.
Nîmes, Florence, Luc, dans tous les cas d'anciennes villes romaines adossées à des piémonts fertiles mais loin de débouchés maritimes sûrs, Saint-Gilles puis Aigues-Mortes pour l'une, ou bien Pise et finalement Gênes pour les autres, au XIIe siècle, des cités moyennes éloignées des capitales de nations en cours de centralisation, des villes débarrassées après la tragédie cathare d'une féodalité urbaine peu puissante et gérée par l'évêque et une oligarchie de quelques familles marchandes, des villes en plein développement économique dues à l'industrie textile. Dès le XIIIe siècle, pour les Toscans, 90 000 habitants à Florence, et au XIVe siècle pour Nîmes, 17 000 habitants. Des villes riches qui peuvent acheter leur liberté et même afficher leur volonté de paraître à travers une urbanisation moderne. Ici, Florence se distingue. Dégagée de son passé antique, elle arbore une vie festive et renouvellement permanent, gérant une explosion esthétique allant jusqu'à l'excès.
Ces quelques jalons comparatifs étant posés, rejoignons ce XIIIe siècle que nous avons renommé à l'italienne Duecento et dont nous soulignerons les éléments précurseurs retrouvés outre-Apennin. C'est à Nîmes le siècle de la mise en place difficile du pouvoir communal. À la fin du XIIe siècle, Nîmes est une ville close du comté de Toulouse, limitée à l'Écusson avec des faubourgs modestes. Elle est peuplée, partiellement, de ruraux récemment urbanisés et liée à la prospérité de son terroir dont dépendent dîmes et fermages. Ses remparts médiévaux sont terminés, avec fossés d'eau, sauf au nord, et sept portes fortifiées, la Madeleine, dite Porte Neuve, vers 1114, la Boucrie, Pêcheur, Arles, Couronne, Saint-Gilles et Saint-Antoine. Ruiné et sans grand pouvoir, son vicomte, un cadet des Trencavels, Bernard Aton VI, est soutenu par le roi d'Aragon, suzerain de Montpellier, contre le comte de Toulouse, son suzerain légitime. Tant qu'au roi, il est loin. L'évêque Guillaume II d'Uzès est le seul pouvoir réel de la cité. Fils du comte d'Uzès, allié de Toulouse, neveu de trois évêques dont son prédécesseur à Nîmes, c'est en sa présence qu'en 1197, Raymond VI de Toulouse reconnaît n'avoir aucun droit d'albergue sur l'église de Nîmes.
À la tête d'un évêché riche de près de 400 paroisses, il gère la ville avec son chapitre cathédral de 80 chanoines, charge généralement héréditaire parmi quelques familles de notables. Constitué vers 1010 suite à un mouvement de réforme initié par Rome pour contrôler les dérives épiscopales, ce chapitre a un rôle essentiel dans la ville, contrôlant la police des mœurs, l'assistance, hospice Saint-Jacques, des chevaliers, Saint-Marc, l'éducation essentiellement des fils de négociants, soit comme précepteurs de deux ou trois élèves, soit dans des couvents ou dans l'enclos de la cathédrale avec le capiscole qui surveille l'enseignement. Il gère surtout les nombreuses propriétés de l'évêché et l'économie de la ville, les moulins et teintureries sur l'Ago, marché aux légumes, place aux herbes.
Laïc soumis à la règle de Saint-Augustin, ces chanoines habitaient des maisons individuelles autour d'un cloître, une partie de la place actuelle, avec un réfectoire commun. L'enclos du chapitre était limité au nord par la cathédrale Saint-Castor, l'évêché de la place Bellecroix, à l'est par la Grand-Rue, au sud la rue de la Fabrarier, actuelle rue du Chapitre, où s'ouvrait l'unique porte. Si l'archidiacre était nommé par l'évêque, ils élisaient leur chef, le prévôt, sur proposition de l'évêque, ainsi que le précanteur, le sacristain, le prieur claustral, etc. Au cours du temps, leur nombre s'accrut jusqu'à plus de 80.
Autre groupe important, les chevaliers des arènes. Ces milites castri arenorum venaient d'une petite noblesse urbaine, souvent seigneurs de villages périphériques. Milices héréditaires, ils tenaient demeure en fief dans les arènes. Des maisons-tours, comme à Florence, rasées par les Médicis, ou les 300 maisons fortifiées d'Avignon détruites par Louis VIII en 1226, bien différentes de la féodalité terrienne belliqueuse de la France du Nord. C'est cette féodalité méridionale retrouvée en Languedoc, Provence, Catalogne ou Italie du Nord, Toscane comprise, qui constituait l'essentiel du parti gibelin, toscan resté fidèle aux structures impériales et jaloux de l'enrichissement scandaleux de l'Église et de la bourgeoisie guelfe.
Vassaux collectivement du vicomte de Nîmes, les chevaliers ont la garde des arènes fortifiées en château. Recrutés souvent dans les mêmes familles que les chanoines, ils étaient 31 au début du XIIe siècle, 50 en 1174 et près de 100 en 1226. En 1185, ils se sont soumis au comte de Toulouse venu remettre de l'ordre dans la vicomté en favorisant l'émancipation bourgeoise. Donc beaucoup de similitudes avec la constitution de la Ligue Lombarde de 1167, ou la prise de pouvoir à Florence par les Uberti en 1177. La même confusion entre ces révoltes nobiliaires et un anticléricalisme latent retrouvé chez les patarins italiens, puis bientôt leur conversion au catharisme, étroitement liée aux luttes entre les communes, la papauté et le pouvoir central. Ici, comme en Italie, l'arrière-plan politique, social, économique et culturel explique l'originalité urbaine du catharisme, caractérisé par une volonté de rationaliser le christianisme par une approche gnostique. Notons cependant que si les villes du royaume de France gardent leur référence à un État centralisé, la cité lombarde ou toscane connaît une réalité économique et politique qui produit sa propre culture. Le catharisme y attirera la bourgeoisie urbaine, commerçants, entrepreneurs, prêteurs et notaires, et des artisans, métiers du cuir, mais aussi tisserands, forgerons, meuniers, taverniers ou aubergistes.
On sait qu'en Italie, profitant de l'affaiblissement impérial, des communes inspirées de l'Antiquité naissent dans le cadre paroissial sous autorité épiscopale. Vers l'an 1000, Gênes comme Venise sont indépendantes de fait. De même, Luc en 1120 et Florence, gérées par un margravia autonome, intermédiaire entre indépendance et appartenance à l'Empire. En 1138, l'évêque de Florence cautionne ses conseils dont les marchands toscans avaient essaimé l'idée en Provence et Languedoc.
Cependant, l'émergence d'un tel conseil à Nîmes fut difficile. En 1101, avant de partir en Terre Sainte, le vicomte Bernard Hatton IV avait fait prêter serment à la quinzaine de chevaliers du château des Arènes de lui conserver cette forteresse. Ruiné par la croisade, il cède en 1124 pour 4000 sols melgoriens quelques redevances seigneuriales à la communauté, reconnue donc en tant que telle. À sa mort en 1130, Nîmes échoit au plus jeune de ses fils, Bernard Hatton V, qui, marié à Guillemette de Montpellier, veut sortir de la mouvance toulousaine. En 1139, il reconnaît un consulat qui, vers 1140, crée une foire pour la Saint-Michel, dont la publicité est faite par crieurs juifs jusqu'à Posquière, actuel Vauvert.
En 1144, 13 ans après Arles et 3 après Montpellier, Bernard Hatton V donne une charte municipale qui prévoit 8 consuls, 4 consuls pour les chevaliers des arènes et un pour chaque quartier, Beaucarrier, Garrigues, Mégen, Corucomaille. Il renonce aux droits de basse justice et concède en biens communaux pour 4000 sols de Saint-Gilles de grands espaces de Garrigues pour y faire paître les troupeaux, tel le bois des espèces. À sa mort en 1159, une partie des chevaliers des arènes refuse pourtant de reconnaître son fils posthume, le faible Bernard Hatton VI. Raymond V de Toulouse intervient pour les soumettre en 1163, en 1166, puis finalement, en 1184, il chasse les 4 chevaliers du consulat et confirme les 4 autres. En autorisant cette corporation de la place de la cité à fortifier la ville, le comte accorde aux bourgeois les privilèges dont jouissaient les chevaliers des arènes, dont l'exemption de tout frais judiciaire devant les jurés du comte. En 1194, revenu, le vicomte vend aux bourgeois de Nîmes la possibilité d'élire leurs 4 consuls qui siègent dans la maison carrée.
Raymond VI de Toulouse intervient à nouveau, mais est excommunié de 1196 à 1198 pour s'être opposé à l'abbé de Saint-Gilles. Du coup, il se rapproche des cathares, qui développent alors leur vaste mouvement anticlérical. En 1198, il réorganise le consulat nîmois. Le peuple, réuni à son de trompe dans les 4 quartiers de la ville sous la présidence de l'officier comtal, devait nommer par quartier 5 personnes probes et capables, lesquelles, après serment, prêtaient de voter pour le plus grand avantage de la communauté et du comté, désigneraient 4 consuls. Ceux-ci ont plein pouvoir de statuer, de traiter, corriger tout ce qui peut intéresser l'utilité publique et notamment de fortifier la ville et le château.
Mais en septembre 1207, les chevaliers profitent de la croisade albigeoise pour se révolter contre Raymond VI de Toulouse. on pille les maisons du comte, détruit un de ses moulins porte de la Madeleine, et finalement, on tue son viguier. Soutenu par l'évêque Hugues de Lédignan, ils font alliance avec la bourgeoisie par délibération entre quatre consuls, chevaliers des arènes et quatre consuls de la ville, qui, avec leurs conseillers, décident d'un consulat commun de 8 consuls élus pour 1 an. Les chevaliers choisis par la ville et les bourgeois choisis par les chevaliers. Ils proposeront leur successeur à l'agrément par l'évêque et recevront 100 sols à la fin de leur mandat non immédiatement renouvelable. Pour récupérer son château des arènes, Raymond VI cède le 15 février 1209 et confirme les chevaliers et les bourgeois dans les charges consulaires.
En 1214, totalement ruiné, Bernard Aton VI, vicomte théorique, vend finalement ses vicomtés à Simon de Montfort et entre dans les ordres. Dès 1215, Montfort confirme les privilèges de la cité. Revenu en 1216, Raymond VII fait de même en 1220 et s'engage à ne construire aucune forteresse dans l'enceinte de la ville. Dans l'intervalle, il s'est emparé de Beaucaire, à qui il a concédé un consulat et en 1217 la possibilité de tenir une foire annuelle, ce qui fera de la ville la capitale française des marchandises, pour plusieurs siècles.
En 1222, des franciscains s'installent à Nîmes et critiquent vivement la richesse du haut clergé. Les troubles se poursuivent si bien qu'en 1226, Louis VIII, roi de France, descend dans le midi de la France à la tête d'une nouvelle croisade. Il retrouve à Nîmes un consulat puissant avec attributions législatives et judiciaires ayant droit de sceau et où bourgeois et chevaliers semblent se partager l'influence. Cependant, dès le 3 juin, les consuls jurent entre les mains de l'évêque Arnaud de se soumettre aux légats et au roi à qui ils remettent la ville. Confiant en sa miséricorde et en sa bienveillance, nous espérons que la ville et le château de Nîmes, sous sa domination, vivront à perpétuité dans le bonheur et dans la joie.
Louis VIII occupe les arènes, en chasse les chevaliers qui, excommuniés par le pape, quittent le consulat. La plupart se réfugient sur leurs terres. Le roi meurt à son retour en novembre et une révolte des barons doit être matée par la régente Blanche de Castille. Raymond VII, lui, doit se soumettre au traité de Meaux le 12 avril 1229. Il cède au roi les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne et au pape le marquisat de Provence, dont l'administration est confiée par le légat du pape aux agents du roi de France.
Pour conciliation, le jeune Louis IX reconnaît à Nîmes 15 conseillers élus, mais nomme les 8 consuls, dont 4 chevaliers. S'ensuit une vive résistance populaire. Le roi installe à Nîmes la sénéchaussée avec un présidial et ses officiers royaux, les conseillers, procureurs du roi, avocats du roi et juges, mages. Le traité a prévu le mariage de Jeanne de Toulouse, seule héritière avec le frère du roi, Alphonse, qui deviendra donc comte de Toulouse en 1249, après avoir récupéré le marquisat de Provence sous suzeraineté papale en 1234.
En 1232, le pape, ayant étendu l'inquisition pontificale au midi de la France, éclate bientôt des révoltes urbaines contre les inquisiteurs dominicains, soutenus par des consulats notamment à Narbonne et Toulouse. Dirigée contre l'empereur, l'inquisition papale s'étend de même à la Toscane en 1235, confortant la République florentine guelfe en 1250.
Pour sa part, Louis IX a accordé à Aigues-Mortes une charte communale en 1246 afin d'encourager son peuplement et en 1251 à Nîmes, un hôtel des Monnaies installé rue de la Monnaie pour renforcer la base logistique de son seul port méditerranéen. on y frappera des livres tournois et parisis en concurrence avec Toulouse. Pourtant, en 1253, les consuls réclament à l'évêque que les métiers soient mieux représentés. L'évêque accorde à ces deux-ci deux consuls et 9 conseillers, un par échelle.
Changeur, épicier et apothicaire, drapier, pelletier, tailleur, tisserand, croyeur, tanneur, boucher et bouvier, taillandier et mégissier, serrurier et fournier, charpentier et maçon, laboureur, jurisconsulte, médecin et notaire.
Cette ouverture aux arts et métiers rappelle l'apparition des corporations florentines en 1182. À son retour de croisade en été 1254 et contre 600 écus d'or, le roi nomme une commission pour réorganiser le consulat. Voilà bourgeois et chevaliers mécontents, et le roi doit envoyer son chancelier comme médiateur. On décide finalement de 8 consuls et 24 conseillers, avec 2 consuls et 6 conseillers pour les chevaliers, 2 consuls et 8 conseillers pour les bourgeois, 4 consuls et 10 conseillers pour les échelles. Contre nouveaux dons financiers, le roi renouvelle les privilèges, immunités et franchises et désigne 4 commissaires pour restituer leurs biens à certains seigneurs et bourgeois qui en avaient été privés suite à la guerre des Albigeois.
En 1270, le roi passe à plusieurs reprises à Nîmes en mai et juin avant de prendre la mer. Évincé de fait du pouvoir communal, les chevaliers des arènes lui demandent de revenir au statut de 1207, d'où un nouvel arbitrage et l'organisation en 1272 instituée par Assemblée générale. La situation reste inchangée finalement pour les chevaliers, mais donne 2 consuls et 4 conseillers de plus aux bourgeois, aux dépens des échelles, qui perdent donc 2 consuls et 1 conseiller.
Il aura donc fallu près de 2 siècles de négociations difficiles pour que les Nîmois obtiennent finalement une certaine autonomie économique, tant vis-à-vis du roi que de l'évêque.